by Christine Lanier, Art et Affinité. Angeli, Archangeli, Troni et Dominationes, Ange, Archange, Trônes et Dominations, Principautés et Puissances, Vertus des Cieux, Chérubins et Séraphins, Patriarches et Prophètes, Saints Docteurs de la Loi, Apôtres, vous tous les martyrs du Christ, Saints Confesseurs, Vierge du Seigneur, Anachorète, et tous les saints, intercédez pour nous, Sanctique omnes intercedit et pro nobis. Heinrich Isaac, Angeli Archangeli, fin du XVe siècle. Le motet Angeli Archangeli a six voix du compositeur franco-flamand Heinrich Isaac. Est un chant d'intercession, semble-t-il, à tous les saints et puissances célestes. Motet qui nous permet d'approcher un musicien quelque peu oublié de nos jours, hein, malgré l'immense notoriété dont il jouit à la Renaissance. Dans l'extrait que vous allez entendre, le texte latin est d'une lisibilité remarquable. Toutefois, la mélodie servant de base à ce chant polyphonique sacré, le cantus firmus dans le jargon des musiciens, est une chanson populaire. Le titre, Comme femme déconfortée. Choix étonnant, n'est-ce pas, que la juxtaposition de ce texte latin et de cette mélodie profane, laissant entendre que ce motet est peut-être, en réalité, un motet célébrant l'Assomption de la Vierge, donc un motet marial, et vous allez entendre quatre voix aux tessitures aiguës qui ouvrent les cieux. Motet interprété par la Capilla Real de Catalunya, dirigé par Jordi Savall. Bonjour. Né vers 1450, probablement à la frontière entre la Flandre, on dit la Flandre, et le Brabant, c'est-à-dire dans la partie septentrionale du duché de Bourgogne, Heinrich Isaac est un homme du Nord. Et il atteignit durant la Renaissance une renommée considérable de compositeur, surpassée seulement par celle de Josquin des Prés. C'est un contemporain exact de Josquin. Selon les musicologues, Heinrich Isaac exercera une influence sur la tradition musicale allemande grâce au lien qu'il entretint avec la dynastie des Habsbourg. Avant les Habsbourg, il fut au service de la cour des Médicis à Florence. Les franco-flamands, vous le savez, sont cosmopolites. Ils ont plusieurs cultures, parlent plusieurs langues. Mais c'est cette relation privilégiée qu'il eut à la fin de sa carrière avec l'empereur Maximilien d'Autriche, empereur d'Allemagne, dont il fut le compositeur de cour, qui motive le choix d'Heinrich Isaac pour accompagner l'exposition au Louvre d'un artiste tout aussi rare, Martin Schongauer, surnommé le beau Martin de son vivant, né vers 1445-1450. Schongauer est un peintre-graveur originaire de Colmar, d'une virtuosité exceptionnelle, qu'il s'agisse de ses gravures sur cuivre, on le connaît surtout comme graveur, ou bien de ses peintures sur bois, et pour la première fois, un musée, le Louvre, a réussi à rassembler la quasi-totalité de ses panneaux peints. Et dans l'exposition, il y a aussi 5 dessins sur les 12 qui sont actuellement donnés au maître. Surtout, est présente au Louvre la Vierge au buisson de rose. Elle est aujourd'hui conservée dans l'église des Dominicains de Colmar. Or, au Louvre, vous la verrez dans des conditions exceptionnelles, puisqu'elle est presque à hauteur d'yeux, tandis qu'à Colmar, le grand retable est inséré dans une structure néo-gothique. Au Louvre, elle est décadrée et à votre hauteur. L'exposition du Louvre est intitulée « Martin Schongauer, le bel immortel jusqu'au 20 juillet 2026 ». Aujourd'hui, premier volet d'un cycle de 2 émissions. Donc, je remercie Jean-Édouard pour le montage des images qu'il vous montre en ce moment sur l'écran de rc.fr. Et je remercie le musicien Stéphane qui vous fait bonjour de l'autre côté d'une très grande glace. L'exposition Schongauer s'ouvre sur une brillante confrontation entre une gravure représentant un encensoir, je vous la montre sur l'écran de rc.fr, et une pièce d'orfèvrerie, une grande croix d'autel en argent qui fut réalisée par l'un des frères de Martin Schongauer qui était orfèvre. Martin Schongauer est petit-fils, fils et frère d'orfèvre. Sa maîtrise du travail du métal, il la doit en quelque sorte à sa préformation dans l'atelier d'orfèvre dirigé par son père à Colmar, qui est alors une ville libre du Saint-Empire romain germanique. Nous sommes sous le long règne de Frédéric III de Habsbourg, élu au trône impérial et couronné à Rome par le pape. Et l'Empire à cette époque apparaît comme une mosaïque de villes libres et de principautés séculières ou ecclésiastiques qui sont dotées chacune de pouvoirs régaliens. Au XVe siècle, les villes les plus importantes ont le statut de ville libre d'empire, et c'est le cas de Colmar. La pièce d'orfèvrerie que vous voyez gravée par Schongauer est l'une des plus grandes gravures qu'il ait jamais réalisées. Alors, il a gravé en creusant les lignes sur une plaque de cuivre. Ces lignes sont incisées en creux dans le métal, dans le cuivre à l'aide d'un burin. Un burin, c'est une lame à l'extrémité taillée en biseau. Et pour imprimer ce dessin sur le papier, on met l'encre dans les parties creusées, puis on presse une feuille contre la plaque. L'encensoir, c'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre de la gravure au burin, et pourquoi? Pourquoi? Par son format d'abord, je vous en ai parlé, et puis c'est une véritable nature morte, d'une extrême virtuosité. Elle arrête net tous les visiteurs du Louvre, et il y en a beaucoup, et c'est heureux pour une exposition sur un graveur et un peintre. Je suis très surprise de cette affluence. Les motifs sont empruntés à l'architecture de style gothique flamboyant, celle des cathédrales de la fin du XVe siècle. On parle de gothique tardif. Alors il y a, vous les voyez dans la partie supérieure, des pinacles, des arcatures trilobées, des volutes et des rinceaux d'inspiration végétale. Et puis surtout, le morceau de bravoure, c'est la chaîne de suspension enroulée au pied de l'encensoir. Elle est tenue par des anges. Alors les maillons, c'est un tour de force parce que c'est extrêmement difficile de graver dans le cuivre des formes en arc de cercle avec un burin. Et puis, il faudrait parler des jeux d'ombre et de lumière. La lumière vient de la droite et cela dépend du creusement ou de l'effleurement du métal. Et cette gravure porte le monogramme M plus S Martin Schengauer en bas, dans la partie inférieure. Ce sont les gravures qui ont assuré la réputation de son vivant de Schengauer. Donc, Martin Schengauer, graveur, fils d'orfèvre, mais qu'en est-il de sa formation de peintre? Ce qui est sûr, nous en avons déjà parlé, c'est qu'aucun peintre comme aucun musicien ne vient de zéro. Ne naît de zéro. Or, il n'y a quasiment pas de pièces d'archives sur Schengauer. On ne connaît même pas la date exacte de sa naissance. On dit, les chercheurs disent, vers 1445. Selon eux, Schengauer se serait formé à Nuremberg et à Leipzig. C'est une autre confrontation d'œuvres et c'est très formateur pour l'œil des visiteurs, vraiment. C'est une autre confrontation qui va permettre de comprendre l'impact des artistes des Pays-Bas méridionaux. Je parle de Gand, Bruges, Tournai, Bruxelles, ceux que l'on a longtemps appelés les primitifs flamands, sur le jeune Schengauer. Et l'un d'eux en particulier, un très grand maître qui travaillait à Bruxelles, Rogier van der Weyden. Le triptyque Braque, un triptyque aujourd'hui conservé au Louvre de van der Weyden, est donc présenté ouvert dans cette salle d'exposition. Et juste à côté, c'est une confrontation très brillante, très troublante. Juste à côté, il y a un dessin de Schengauer prêté par Florence, le Christ bénissant. Vous l'avez également sur l'écran de rc.fr grâce à Jean-Edouard. Bien. Le triptyque de la famille Braque, c'est un retable portatif. Le panneau central ouvert représente le Christ en buste, entouré de la Vierge et de Saint Jean. Et le dessin à la plume, venant du musée des Offices de Florence, reprend, semble-t-il, directement le buste du Christ. Et une telle proximité entre ces deux très beaux visages, allongés, individualisés, semble prouver aux visiteurs, à moi la première, que Schengauer a vu ce retable. Oui, mais problème. Alors, big problem. Problème, et cela va fonctionner comme une enquête policière. Pourquoi? Le triptyque Braque était un retable à vocation commémorative, pieusement conservé à Tournai par la famille Braque. Il était habituellement rangé dans un étui, donc fermé. Vous ne pourrez pas voir derrière ce qu'il y a, mais derrière, il y a un crâne et une croix peint, c'est-à-dire un memento mori, c'est-à-dire souviens-toi que tu vas mourir, ainsi que les armoiries de la famille Braque. Donc, là où je voulais en venir, c'est qu'il semble extrêmement difficile d'envisager que Schongauer ait pu avoir un accès direct à ce retable qui était extrêmement difficile à voir. D'autre part, Van der Weyden, qui travaillait à Bruxelles, est décédé en 1464. Schongauer n'a pas pu le rencontrer directement. Alors, eh bien voilà, les questions commencent. On se dit qu'il a dû voyager dans cette région. Et le Louvre propose des rapprochements dans cette exposition avec un tas de dessins d'autres maîtres qui sont extrêmement troublants et convaincants. Pourquoi est-ce que je dis troublants? Parce qu'il y a eu tout un processus d'assimilation, d'intégration si profond de la part de Schongauer que cela va bien au-delà de la copie d'un motif qui traînerait dans un atelier. Donc on ne peut pas exclure que Schongauer ait fait un voyage ou un tour de compagnonnage dans les Pays-Bas méridionaux, mais on ne peut pas le prouver non plus. Un jour, un peu plus tard, en l'an 1492, un autre immense peintre-graveur, Albrecht Dürer, maître de Nuremberg, se met en route pour accomplir son tour de compagnonnage. Et vers où se dirige-t-il? Mais vers Colmar, bien sûr. Mais il arrive trop tard pour travailler auprès du très célèbre Martin Schongauer, qui est mort de la peste probablement l'année précédente. Alors Dürer va chercher à acquérir des dessins de Schongauer. L'un d'eux est présent exceptionnellement à cette exposition. Il s'agit d'un Christ bénissant. Également, il vient de Londres, du British Museum. Et ce dessin est annoté, c'est très émouvant, il est annoté de la main de Dürer qui a écrit « Ceci a été fait par le beau Martin, le beau Martin ». Alors, on ne sait pas si c'est un jeu de mots sur son nom de famille, Schön, ou Schön, je ne prononce pas bien l'allemand, signifie beau, ou parce qu'il était beau lui-même, on n'en sait rien car on a seulement gardé un portrait posthume, mais on pense plutôt que ce qualificatif, le beau Martin, est dû à la qualité de son art. Donc, rien ne vaut un tour de compagnonnage, la rencontre directe des œuvres ou d'un maître, et c'est ce que fait très brillamment cette exposition du Louvre. Alors, dans la discographie récente, il y a une réalisation exceptionnelle de l'ensemble Gilles Binchois de Dominique Vellard. Alors, Dominique Vellard, c'est toujours très bien. Autour de la messe à six voix et plein chant pour les fêtes de la Vierge de Heinrich Isaac. Il s'agit de la messe Virgo Prudentissima, cela veut dire Vierge très sage. Heinrich Isaac, on ne sait rien de ses jeunes années. Il serait né vers 1450, vous voyez, quelques 5-6 ans après Schongauer. Sa carrière de chanteur puis de compositeur va le mener loin de sa Flandre natale. De nombreux documents attestent de son séjour à Florence. Il fut au service de Laurent de Médicis dans les années 1480. Peut-être fut-il chargé de l'éducation musicale des enfants de Lorenzo, parmi lesquels Giovanni, le futur pape Léon X. C'est toujours bien de connaître un pape, en l'occurrence un pape Médicis. Il protégera toute la fin de carrière de Heinrich, Isaac. Après la mort de Laurent, Laurent le Magnifique, en 1492, Heinrich Isaac entre au service, c'est pour cela que je l'ai choisi, entre au service de Maximilien de Habsbourg, le futur empereur du Saint-Empire romain germanique. Et le contrat qui le liait à Maximilien lui offrait la possibilité de voyager constamment. Une double, triple culture donc. Il parle et compose en latin, français, flamand, italien et allemand. Dernier point, le Choralis Constantinus est un des recueils de motets les plus importants de la Renaissance. Ces motets, ils sont au nombre d'environ 375, ce n'est pas rien. Ces motets ont été composés par Heinrich Isaac à partir de 1508, on en est sûr, 1508, sur commande du chapitre de la cathédrale de Constance en Allemagne. C'est un des sommets de la musique de la Renaissance, disent les musicologues allemands, et pratiquement inconnu en France, j'insiste. Alors, la Missa Virgo Prudentissima à six voix, dont nous allons entendre des extraits au cours de ces deux émissions, fut probablement écrite en 1507. Alors, j'insiste, c'est une très brillante reconstruction par l'ensemble Gilles Binchois. Elle a été remise, cette messe, dans un contexte liturgique. Qu'est-ce que cela veut dire? Que des parties de plein chant, du chant grégorien, je fais court, des parties de plein chant alternent avec l'ordinaire de la messe, avec les parties de la messe mises en polyphonie par Heinrich Isaac, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus et Agnus Dei. Ces parties de plein chant sont tirées d'un manuscrit conservé à la cathédrale de Florence, donc c'est un travail extrêmement sérieux. Pour commencer, nous allons entendre un motet, c'est un motet marial, Gaudeamus omnes in domino à quatre voix, tiré de ce fameux Choralis Constantinus qui figure sur ce CD. Alors voici la lecture des deux textes qui seront chantés ensemble. Gaudeamus omnes in domino, réjouissons-nous tous dans le Seigneur en célébrant ce jour de fête en l'honneur de la Vierge Marie. Les anges se réjouissent de son assomption et louent avec elle le Fils de Dieu. De cuius assumptione gaudent angeli et collaudant filium Dei. Et le texte, le second texte, sur lequel je reviendrai, le texte de l'antienne de plein chant, Virgo prudentissima, quo progrederis, Vierge très sage, vers où chemines-tu, pareille à l'aurore, resplendissante fille de Sion, tu es toute belle et charmante, pulcra ut luna, electa ut sol, admirable comme la lune, incomparable comme le soleil.
Yeah. Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Le Louvre a réussi à présenter 7 des peintures de Schongauer sur les 8 qu'il a pu réaliser. Et quand on entre dans cette partie de l'exposition, on est très impressionné par un ensemble de petits panneaux peints et au loin, on aperçoit la star de l'exposition que nous observerons dans 15 jours, la Vierge au buisson de rose qui fait, elle, 2 mètres de haut. C'est un chef-d'œuvre insigne. Des œuvres peintes par Martin Schongauer qui sont connues à ce jour. Une Vierge à l'enfant à la fenêtre qui vient de Los Angeles, que je vous montre sur l'écran de rc.fr, est la plus petite. Ses dimensions sont à peu près celles d'une estampe. C'est quelque chose que l'on devait tenir dans le creux de sa main. Une petite Vierge vêtue de rouge. Elle apparaît dans l'encadrement d'une fenêtre. Un encadrement en pierre et l'enfant est assis près d'elle sur un somptueux coussin de soie verte. On pourrait penser qu'il s'agit d'une scène entre une mère et son enfant, d'une scène intime. Mais cette touche d'intimité n'est qu'apparente car la silhouette d'un ange se profile dans l'obscurité froide de la pièce. Derrière la Vierge à l'enfant, il porte un sceptre et une couronne, donc 2 pièces d'orfèvrerie qui sont vraiment en miniature les insignes de la royauté de l'enfant Dieu pour le sceptre et de la souveraineté de sa mère, reine des cieux, pour la couronne. Et l'enfant feuillette le livre à la manière tout à fait brutale et malhabile. D'un tout petit. En réalité, ce livre est la Bible et il fait référence à son rôle de verbe incarné. Et le verbe s'est fait chair, dit Jean en 1,14. Il ne s'agit donc pas d'une scène de la vie quotidienne. Alors, la douceur, les traits délicats de la Vierge aux yeux baissés, la cascade de ses cheveux blonds qui coulent sur ses épaules, les très longs doigts fins. Tout cela traduit la connaissance et l'assimilation par Schongauer des modèles, des grands maîtres des Pays-Bas méridionaux qui ont exploré le thème de la Vierge apprenant à lire à son fils. Il faudrait parler aussi longuement du traitement de la lumière. Vous regarderez bien, il faut s'approcher de très très près. Un mince filet de lumière souligne une petite entaille de la pierre de la fenêtre dans la partie inférieure de ce panneau. C'est un minuscule détail, mais un détail réaliste. Et qui renforce l'effet de matérialité de la pierre. C'est du très grand art. Un panneau un peu plus grand peint par Schongauer est destiné à un usage de dévotion privée également, une adoration des bergers venus de Berlin est également présentée dans cette première salle et vous l'avez sur l'écran de rc.fr et il surprend par une abondance de détails. Alors, le décor, c'est une humble étable, on s'y attendait, mais accroché au contrefort d'une paroi rocheuse, ce qui fait allusion à la grotte où l'enfant serait né selon la tradition orientale. Marie, toute de bleu vêtue cette fois-ci, est agenouillée en prière devant son fils. Derrière elle, en retrait, on reconnaît Joseph, et à l'opposé, sur la droite, Schongauer a disposé 3 bergers qui représentent aussi les 3 âges de la vie. Et il y a un effet de réel chez Schongauer. Je n'aime pas employer le mot de réalisme, c'est un mot qui n'a pas sa place à la fin du XVe siècle. Il y a un effet de réel qui est frappant. C'est un des premiers artistes à utiliser de manière tout à fait consciente de vieux objets usés. Il y a un goût du détail, à nouveau du détail vrai. Les sacs du baluchon de Joseph, par exemple, au premier plan, sont salis et troués. La couverture sur laquelle l'enfant est couché est elle aussi déchirée. Le chapeau de paille que tient l'un des bergers est effrangé sur le bord. Quant au visage de Marie, il est conforme à la tradition flamande. C'est une morphologie de visage à nouveau très douce, avec ce grand front, les tempes rétrécies. Il y a des dessins très proches de Van der Weyden, où on voit ce type de visage. Mais, les physionomies des trois bergers sont très différenciées les unes des autres. Je remarque aussi un paysage à l'arrière-plan, un paysage de collines et de prairies, où pèsent des moutons, alors ce sont quelques taches blanches, et ce paysage est traversé par une rivière qui nous mène tout droit vers les remparts d'une ville. C'est le point de fuite de la composition. Ce qui différencie cette perspective empiriquement rendue par Schoengauer de celle des Italiens de la Renaissance. Nous sommes à la fin du XVe siècle. Les Italiens de la Renaissance ont théorisé la perspective, ils ont établi des règles mathématiques et ça n'intéresse absolument pas Schoengauer. Alors, les chercheurs ont rapproché cette adoration des bergers de Schoengauer de celle du panneau central d'un grand retable très très célèbre, le retable Portinari réalisé par le flamand Hugo van der Goes à la même époque à Gand pour un commanditaire italien conservé aux offices de Florence. Vous l'avez sur l'écran de rc.fr. Ce retable n'est pas présent au Louvre. Il y aurait peut-être 3 km de queue. On retrouve l'opposition. Quand je dis 3 km de queue, je rappelle que c'est Martin Schoengauer qu'il faut redécouvrir. Apprendre à regarder à nouveau. Et on retrouve l'opposition entre le groupe de la Sainte Famille et celui des bergers. On retrouve l'ouverture vers un paysage à l'arrière-plan, les poutres de l'étable qui se découpent sur le bleu du ciel. Alors qu'est-ce que cela signifie? Parce qu'enfin, Hugo van der Goes, qui travaillait à Gand, est un artiste totalement contemporain de Schoengauer. Tous deux, selon les chercheurs, se sont inspirés d'un modèle de Van der Weyden et l'ont assimilé chacun à sa manière. L'un est un peintre flamand des Pays-Bas méridionaux et l'autre, notre Schoengauer, vit à Colmar et travaille dans le Saint-Empire romain germanique. Vous voyez, cette question de l'assimilation est vraiment passionnante. Et j'aimerais vraiment, auprès de vous, faire exactement le même travail de comparaison avec des musiciens. Mais je n'en suis pas du tout capable, du moins pas encore. Dernier point, on a presque l'impression que Martin Schoengauer fait ses petits panneaux peints sans qu'il y ait eu de commanditaire, presque pour un marché libre. Et l'impression qui se développe au fur et à mesure de l'exposition, qu'il fait des œuvres pour séduire. J'entends séduire une clientèle. Enfin, je vous montre les faces externes des volets d'un retable de Schoengauer, le retable d'Orlier du nom de son commanditaire. Alors, je rappelle que l'on parle de triptyque, un triptyque pour définir la forme d'un objet liturgique, c'est-à-dire une œuvre composée de trois parties, et ici, la partie centrale, on le sait, c'était une sculpture, une Vierge à l'enfant malheureusement disparue, et il y avait de chaque côté deux volets peints mobiles qui pouvaient s'ouvrir ou se refermer sur la sculpture centrale et l'occulter complètement. Le triptyque à volet mobile, c'est une formule flamande. Par ailleurs, la fonction, cette fois-ci, non plus la forme, mais la fonction de cette œuvre, c'est d'être un retable, du latin retrotabula, derrière la table, c'est-à-dire un objet liturgique placé à l'arrière d'une table d'autel. Et le prêtre célébrait habituellement la messe devant ce retable dont les volets étaient fermés et représentaient, dans la quasi-totalité des cas, une annonciation. C'est le cas ici. Nous allons observer cette annonciation. Vous l'avez sur l'écran de rc.fr. Il y a beaucoup de paroles écrites. Alors, Gabriel bénit la Vierge de la main droite. Il est sur le volet de gauche. Il tient un sceptre de l'autre main autour duquel s'enroule un phylactère qui porte l'inscription habituelle. Ave gratia plena Dominus tecum, salut à toi pleine de grâce, que le Seigneur soit avec toi. C'est la salutation évangélique. Ce que j'observe, c'est que ses ailes sont faites de somptueuses plumes de paon. Le paon, c'est un symbole de résurrection, car on croyait que les plumes de l'oiseau tombaient chaque automne et repoussaient chaque printemps. Et au-dessus de Gabriel, il y a Dieu le Père en buse dans un nuage. Il observe la scène et attention, regardez bien. Il vient d'envoyer la colombe qui est entrée déjà dans le panneau de droite où se trouve Marie debout, tête et yeux baissés en signe d'humilité, les mains aux très longs doigts croisés sur un livre. L'inscription dans l'auréole de la Vierge est tirée de la prophétie d'Isaïe. Ecce virgo concipiet, et pariet filium, et vocabitur nomen eius Emmanuel. Voici, une vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et il sera appelé Emmanuel. Isaïe 7, 14. J'observe que la colombe, ça n'a l'air de rien, mais la colombe au nimbe crucifère, vole vers le mot concipiet. C'est une manière de figurer le mystère de l'incarnation. J'observe également le rouge de la draperie qui entoure le livre que tient la Vierge. Et ce rouge ressort au cœur du manteau bleu de la Vierge à hauteur de son ventre. Absolument aucun détail en cette fin de XVe siècle n'est gratuit. Rouge, c'est la couleur du sang. Et qu'apporte la Vierge à l'incarnation, soulignait le très regretté historien de l'art Daniel Arras, son sang. C'est le sang de la Vierge qui va donner matière au corps du Christ. D'où ce rouge, en plein cœur du bleu, et à l'incommensurable qui est figuré par l'auréole d'or. Quant au lys, vous le connaissez, c'est plus facile à analyser, c'est le symbole bien connu de la pureté et de la chasteté de la Vierge. Alors, quelques mots, parce que tout se tient dans ces deux émissions sur Martin Schongauer, enfin j'ai essayé, quelques mots sur le contexte de création de la Missa Virgo Prudentissima à six voix. Elle est créée vers 1507, et le motet Virgo Prudentissima, dédié à l'Assomption de la Vierge, dont nous avons entendu le début. Je n'ai jamais dit que le motet faisait partie de la messe. Je n'en sais strictement rien. Stéphane non plus d'ailleurs. Ils auraient été conçus, j'emploie un conditionnel passé, ils auraient été conçus tous les deux pour le couronnement prévu de Maximilien Ier, empereur du Saint-Empire romain germanique. Et pourquoi ? Alors, suivez-moi bien. Après l'Assomption, Marie sera couronnée reine du ciel par son fils. Vous êtes d'accord ? Et Maximilien devait être couronné par le pape après son élection. L'empereur d'Allemagne est élu. En réalité, ce couronnement par le pape n'aura pas lieu. Et Maximilien prit en 1508 le titre d'empereur romain élu. Alors, suivez-moi bien. Reprenons les paroles de l'antienne mariale grégorienne. Virgo prudentissima, vierge très sage, quo progrederis, où vas-tu? Quasi aurora val de rutilans, aussi brillante que l'aurore. Filia Sion, fille de Sion. Tota formosa et suavis est, tu es toute belle et douce. Pulcra ut luna, electa ut sol. J'y reviens, belle comme la lune, aussi parfaite que le soleil. Marie, donc, est dite dans cette antienne, belle comme la lune, radiante comme le soleil, resplendissante comme l'aurore. Et tout cela vous évoque évidemment le Cantique des Cantiques ou encore la vision de la femme dans l'Apocalypse de Jean. Conclusion, c'est la reine du ciel qui sera associée à cet autre souverain, Maximilien. C'est cela qui compte. Donc, nous allons écouter le début du Gloria de la Missa Virgo Prudentissima. Dans ce Gloria, les deux textes, le Gloria et l'antienne grégorienne, vont s'entrelacer. La mélodie de l'antienne grégorienne est en note longue et quasiment, Stéphane le confirme, est quasiment indétectable. D'autant plus que c'est une messe à six voix. Donc vous n'y arriverez pas, ne vous désolez pas, personne n'y arrive. Assez rapidement, on ne sait plus qui chante quoi. C'est du Arvo Pärt avant l'heure. C'est un peu hypnotique. Et c'est ce que les pères du Concile de Trente reprocheront à la messe polyphonique. Oui, mais vous allez entendre, laissez-vous porter par ce Gloria. Au fond, ne cherchez rien, ne cherchez pas à distinguer les voix, les mélodies. Personne n'y arrive. Mais c'est admirable. Écoutez. Je vous montre sur l'écran de rc.fr un extraordinaire retable qui n'est pas venu au Louvre, qui est conservé à Prague, une huile sur bois de Dürer, la Vierge de la fête du rosaire, 1506, donc un peu plus tard. Maximilien Ier est couronné de roses par Marie. Et puis j'observe que des anges couronnent Marie de roses. Tandis que le pape Jules II est couronné de roses de l'autre côté par l'enfant que Marie tient sur ses genoux. Je vous l'ai dit, l'empereur ne s'est jamais fait couronner à Rome par le pape Jules II. Donc, j'en viens à la conclusion que cette messe d'Heinrich Isaac fonctionne. C'est pour cela que je l'ai choisie. Elle fonctionne comme le parallèle sonore du tableau que Dürer a peint à la même époque. Bien, je m'aventure peut-être un peu, mais enfin, je ne crois pas être très éloignée de ce qui s'est passé. La dernière salle de cette première partie de l'exposition explore tous les thèmes des gravures de Schongauer. Il n'y a pas que les thèmes religieux. Je vous montre un sujet profane, le départ pour le marché, vers 1470-75. C'est une scène rurale de la vie quotidienne. Une famille en chemin pour le marché de Colmar. Une gravure que l'on pourrait, au fond, aisément confondre avec une fuite en Égypte. Alors, regardez là, au premier plan, un homme marche le dos voûté sous le poids d'un baluchon. Il tient un panier en osier rempli sans doute de provisions à vendre. Et puis surtout une longue épée, ce qui en dit long sur la dangerosité des temps. Il tient un cheval par le licol sur lequel sont assis sa femme et son enfant. Elle est installée sur un gros sac qui lui sert de selle. Son fils est à califourchon derrière elle et tous deux sont pieds nus, leurs vêtements sont élimés. Et j'observe, je ne sais pas pourquoi, elle tient une longue branche dans la main droite et deux oies à vendre au marché. Derrière eux s'étend un paysage à la flamande avec son chemin de terre sinueux qui emmène l'œil jusqu'aux petites collines dans le lointain. Et puis à droite, au deuxième plan, un village avec le clocher de l'église, ses chaumières, les enclos de palissades tressées. Donc une scène de genre très narrative de Martin Schongauer, d'une grande précision, avec un souci du détail extrêmement poussé. C'est presque un document visuel sur la vie des campagnes en cette fin de XVe siècle. Je terminerai avec une gravure au burin qui représente un griffon. Nous sommes donc dans le domaine du fantastique. Un griffon qui est produit par l'hybridation étonnante d'un aigle, d'un coq et d'un taureau, un démon hybride imaginaire que l'on retrouvera dans 15 jours dans le très célèbre Saint-Antoine tourmenté par les démons de Schongauer. Au centre de cette salle au Louvre, il y a un grand écran pour que chaque visiteur puisse avoir accès aux détails des estampes. Et je terminerai par ce goût du détail chez Schongauer. Et puis aussi Martin Schongauer, un artiste du monde germanique. Donc une exposition qui peut affiner, élargir le goût d'un public qui est habitué aux œuvres du sud de l'Europe, aux œuvres italiennes, donc qui pourrait affiner son goût par de multiples confrontations pour un travail d'un très grand artiste du Nord. Restons avec les animaux en musique. Pour clore cette émission, je vous propose une chanson consacrée à un sujet très profane également de la part du grand Martin Schongauer. Vous l'aurez compris, j'ai un décalage d'environ une dizaine d'années. Car Heinrich Isaac a été le compositeur de Maximilien d'Autriche, alors que Martin Schongauer n'a pas connu Maximilien d'Autriche, il est mort avant. Pour clore cette émission en musique, je vous propose donc un des premiers exemples d'hommages musicaux consacrés à un chien. C'est un lied pour ensemble instrumental d'Heinrich Isaac, auquel il donne un titre tout simple, Le chien der Hund, je crois. Au revoir.
Vous venez d'entendre Art et Affinité, dirigé par Marie-Christine Lanier. Émission préenregistrée le 23 mai 2026 et diffusée pour la première fois jeudi 28 mai 2026 de 10h à 11h et réalisée par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.